studio Tamani, voici nos informations en français.
Au sommaire de cette édition matinale présentée par Imran Akilo Maïga, mise en ordre de Nouniguéré, les membres du Conseil national de transition constitués ne sont toujours pas connus. Ces difficultés sont dues au boycott des partis politiques. Ces derniers revendiquent une répartition équitable de 121 sièges. Face à la recrudescence de l'insécurité au centre du pays, à Mopti, les responsables de la commission chargée du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion d'EDR sollicitent la reprise du processus. Ils précisent que les opérations précédentes ont permis le désarmement de plus de 300 combattants. À Gao, la force G réclame l'intégration de ses membres au pourparlers de paix et de réconciliation. La fédération composée des organisations de la société civile de Gao l'a fait savoir dans un communiqué publié le mercredi dernier. Le développement de ces titres dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux informations. La mise en place du Conseil national de transition constitue toujours un blocage. Deux semaines après la publication du décret de nomination, les partis politiques restent campés sur leur refus d'y siéger sur la base des règles arrêtées. Ils exigent une répartition équitable de 121 sièges entre les différentes forces sociopolitiques du pays. À l'occasion d'une réunion de prise de contact entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, les représentants des partis politique. La question a été largement débattue pour certains experts. Le CNT est l'organe législatif de la transition. Sans sa mise en place, il serait difficile pour les autorités de procéder à de quelconques réformes. Mamadou Samasiku.
Le parti de l'Union pour la République et la démocratie qui était représenté à cette réunion estime qu'il est impossible de faire des réformes pour une transition réussie sans impliquer les partis politiques. Pour Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication de l'URD, les autorités de la transition se doivent de prendre en compte les préoccupations de la classe politique malienne. Maître Demba Traoré.
Vous savez, une transition réussie dépend de la forme consensuelle avec laquelle les actions sont conduites. Nous avons compris que le consensus n'a pas existé lors de la prise de ces deux décrets-là. Et nous avons demandé tout simplement aux membres du CNSP de faire en sorte qu'ils puissent avoir une gestion consensuelle de cette affaire-là. L'URD n'a envoyé aucun dossier au siège du CNSP dans le cadre de la mise en place du CNT.
Pour les experts, le Conseil national de la transition est comme la cheville ouvrière de cette transition. Selon Souleymane D, constitutionnaliste, ayant participé à l'élaboration de la charte de la transition, sans la mise en place du CNT, il serait difficile pour les autorités de procéder à des réformes.
Le gouvernement est dans une posture où il ne peut pas faire grand-chose tant que le CNT n'est pas en place, dans la mesure où le CNT contrôle le suivi de la feuille de route, mais aussi et surtout, avant toute autre chose, que le Premier ministre présente devant le CNT le plan d'action et le chronogramme des activités de la feuille de route.
Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, a exhorté les hommes politiques à épauler les autorités de la transition pour faire sortir le pays de la situation difficile qu'il traverse. Toutefois, M. Maïga a promis de rapporter les soucis aux plus hautes autorités du pays.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. À deux mois de transition politique, les grèves ne cessent de se multiplier à travers le Mali. De nombreux services paralysés, la révision des listes électorales suspendues, des pertes économiques signalées de part et d'autre. Ce sont entre autres conséquences de ces arrêts de travail. Parmi les syndicats concernés, ceux des administrateurs civils, l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, les enseignants du supérieur et les surveillants de prison. Le point avec Ousmane Yalibouli.
Ce matin, les syndicats des surveillants de prison ont déposé un préavis de grève des 10 jours, du 14 au 18 décembre et du 21 au 25 décembre 2020. Les réclament entre autres une allocation d'indemnité des logements et l'application de l'article 148 qui les concerne. Au même moment, les syndicats de l'enseignement supérieur s'apprêtent à aller en arrêt de travail illimité à partir du mardi 1er décembre 2020. Ces enseignants revendiquent notamment l'application de plusieurs articles régissant leur situation, l'augmentation de l'âge de la retraite et l'octroi d'une prime de recherche. De son côté, l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTEM, a observé une grève de 3 jours la semaine dernière. Le syndicat prévoit un nouveau mouvement de 120 heures dans les jours à venir. Ses responsables justifient cette décision par l'échec de leurs négociations avec le gouvernement. Les administrateurs civils et aussi poursuivent leur grève illimitée qui a démarré le 9 novembre 2020. Rappelons que toutes ces grèves ont été liées en période de transition politique marquée notamment par une crise sécuritaire et sanitaire à travers le pays.
Les opérations du processus de désarmement, d'immobilisation et réinsertion d'EDR sont suspendues depuis le coup d'État du 18 août dernier. À Mopti, à plus de 130 combattants attendent de rejoindre les rangs de l'armée malienne. Selon le coordinateur régional du désarmement, d'immobilisation et réinsertion de Mopti, 352 combattants ont été désarmés et plus de 163 financés et réinsérés dans le cadre du DDR à Mopti et à Segou. Il dit regretter l'arrêt du processus dans les différentes localités depuis le départ de l'ancien régime Omar Dikko, et joint au téléphone par Nanyuma Sidibi.
Nous avons constaté qu'il y a 6200 combattants détenteurs d'armes qui ont été enregistrés. Nous avions établi un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Nous avons désarmé en ce moment 352 combattants détenteurs d'armes de guerre ou des munitions. Ce programme était prévu, le désarmement, le screening. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 54 qui ont été recrutés, formés et mis à la disposition des forces armées. Au niveau de la réinsertion, nous avons à ce jour 163 à 180 qui ont été financés et qui se sont installés à leur propre compte dans la région de Mopti ou celle de Segou. Nous sommes toujours dans l'attente, quels soient les 130 ou 140 éléments qui restent.
La Fédération des organisations de la résistance civile sollicite sa participation au processus de paix et de réconciliation. Elle l'a fait savoir le mercredi dernier dans un communiqué. La force G qui regroupe au sein de son organe la société civile, les femmes et le jeune de Gao demande aux autorités de la transition de les remettre dans leurs droits afin qu'elles jouent pleinement leur rôle dans le retour de la paix et de la cohésion sociale de la région de Gao. Ousmane Ahamadou Dirougeau, président de la force G, au micro de notre correspondante de Gao, Adizatou Mohamed Maïga.
En 2012, c'était les seules organisations qui revendiquaient l'unité du Mali ici à Gao. Il n'y avait ni groupe armé, il n'y avait ni autre signataire que des djihadistes et la jeune résistance de Gao à l'époque. Maintenant, quand il y a eu en 2013 l'accord de Ouaga, nous avons bien voulu accompagner nos frères d'armes et l'État malien pour qu'il y ait plus de stabilité et de cohésion sociale. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous nous voyons exclus du processus de l'accord qui a été signé en Algérie. Et depuis un certain temps, nous réclamons notre droit d'être dans cette inclusivité de l'accord, nous ne parvenons pas effectivement à atteindre le bout. Il y a eu quand même des communiqués conjoints signés entre le gouvernement malien et nous en 2016 et que depuis lors, on n'a plus encore eu en tout cas une bonne communication venant des autorités en place.
Panne technique de lampadaire qui élimine la route qui mène à l'hôpital du Point G il y a quelques jours. Les habitants du quartier se plaignent de cette situation qui selon eux peut avoir des conséquences négatives sur leur sécurité. Quant à l'énergie d'Imali, EDM qui est le service chargé de la distribution de l'électricité. Elle affirme que des dispositions sont en cours pour résoudre le problème. Reportage de Issa Oumar Togola.
Point G est le quartier qui abrite la faculté de médecine et l'un des plus grands hôpitaux du Mali. Mais depuis quelques jours, la seule route principale qui mène à ce quartier manque d'électricité. Cette situation préoccupe les habitants.
Il n'y a pas de lumière sur la route. Il peut y avoir des bandits autour.
De l'hôpital de Gabriel Touré jusqu'au Point G. Sans d'électricité, c'est pas normal aussi.
Nous travaillons au bord de la route et il n'y a pas de lumière et les ambulances ne roulent pas doucement.
L'énergie du Mali, qui est le service distributeur d'électricité, ampute cette coupure à un problème de câblage. Aruna Diara, chef service de l'éclairage public.
On a pu détecter le défaut. Le câble même en question a été remplacé. Le défaut a fait griller le coffret de commande. La recherche prend souvent un peu de temps. C'est les câbles souterrains, c'est pas l'aérien. C'est l'aérien, c'est plus facile de changer.
Cependant, l'association des consommateurs du Mali regrette un manque de communication entre l'EDM et ses clients. Elle exhorte la population à revendiquer leurs droits. Abdoul Wahab Diakité, premier vice-président de l'ASCOMA.
L'EDM communique très peu maintenant. Quand il y a de tels problèmes, la population aurait pu soit informer les consommateurs ou bien informer directement la mairie qui est en charge de l'éclairage public ou bien l'EDM. Le consommateur doit être actif.
Afin de rétablir l'électricité, les responsables de l'EDM annoncent que ses agents sont à pied d'œuvre.
Selon des sources locales, l'électricité sur la route de Point G a été actuellement rétablie. Faisons à présent le point de la COVID-19 à la date du lundi 23 novembre 2020. Les autorités sanitaires du pays ont enregistré 71 nouveaux cas positifs, 20 patients guéris, un décès. Ainsi, la situation cumulée est de 4 326 cas confirmés, dont 3044 guérisons et 143 décès. Place maintenant à notre rubrique Actu COVID présentée par Khalifa Goïta.
Les centres de traitement de la maladie à coronavirus sont de plus en plus confrontés à de nombreuses difficultés. C'est du moins ce que déclarent ses responsables. Ils déplorent le manque d'équipement sanitaire et l'insuffisance du personnel médical. Toutefois, ses responsables du centre de prise en charge des malades de COVID-19 réitèrent le soutien des autorités pour endiguer cette maladie. Les détails avec Moussa Malé Sissoko.
Pour le professeur Yakuba Toloba, cette réduction du personnel sanitaire s'explique par des contraintes budgétaires. Il invite donc les autorités à faire de la lutte contre la maladie à coronavirus une priorité. Professeur Yakuba Toloba, responsable du deuxième centre de prise en charge des malades de COVID-19 à l'hôpital du Point G.
On était une équipe de 18 personnels de santé, médecins, infirmiers et hygiénistes. Aujourd'hui, nous sommes 6. Déjà, ces personnels qui étaient là n'avaient pas perçu leur salaire. Nous attirons l'attention des autorités.
À la date du 16 novembre 2020, il n'y a aucun patient de COVID-19 au centre de prise en charge à l'hôpital Sominé de l'eau de Mokti, déclare Dr Abdoulaye Traoré. Selon le point focal COVID-19 à Mokti, son équipe est toujours sur ses gardes, car la pandémie n'est pas encore éradiquée. Dr Abdoulaye Traoré sollicite le soutien des autorités.
On avait un hangar qu'on a transformé en centre de prise en charge parce que il y a une seconde dotation qui n'est pas encore là. Malheureusement, on n'a pas possible de faire les tests sur place. Nous faisons les prélèvements et on envoie à l'homme. Il faut attendre minimum 72 heures.
Au même moment, le monde fait face à la deuxième vague de la COVID-19. Interrogé sur les mesures envisagées par le Mali, le ministère de la Santé n'a pas souhaité réagir.
La grève des agents chargés du test COVID-19 pour les voyageurs à l'Institut national de la santé publique prévue ce 23 novembre a été annulée. Selon les agents, un accord a été trouvé avec les responsables de l'Institut la semaine dernière. Ils exigeaient le paiement de leurs primes. Suivons maintenant la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par Dr Amsatou Cissé, infectiologue au CHU de Kati.
Allô docteur, est-ce que un mégot de cigarette peut être un facteur de contamination au coronavirus?
La transmission par la salive est en cours de démonstration. Pour le moment, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Mais le fait que la personne qui a utilisé cette cigarette-là, infectée, si il utilise ce mégot-là et que toi, à la fin, tu puisses utiliser ce même mégot-là, tu peux le transmettre avec. C'est pour cela qu'on demande aux gens de laver les mains régulièrement.
Ainsi prend fin ActuCovid d'aujourd'hui à demain. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter ce programme à tout moment sur notre page Facebook ou rendez-vous sur la plateforme Viamo en composant les numéros 37 321, options 3 et 4.
Studio Tamani. Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité en région nous conduit en Songo. Des hommes armés non identifiés ont braqué 3 véhicules en provenance du Niger. L'acte se produit ce dimanche à Imbalga, dans la commune rurale de Boura, à 40 km dans Songo. Des sources locales, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine ni de blessés. Toutefois, selon les mêmes sources locales, les bandits ont dépouillé les passagers de leurs biens. Les forces de défense et de sécurité ont été informées et des enquêtes seraient en cours. Le conseil de cercle de l'ordre des infirmiers et des infirmiers de Yoroso a tenu ce samedi son assemblée générale. La rencontre a permis de faire un répertoire des cabinets de soins afin d'identifier ceux qui ne sont pas en règle. Une trentaine de membres de l'organe a pris part à la rencontre. Le conseil a prévu de collaborer avec les autorités locales pour lutter contre l'ouverture anarchique des cabinets médicaux dans le cercle. Une quinzaine d'artisans suivent depuis ce week-end une formation sur les techniques de tissage et de teinture des fils de coton à Koutiala. Selon les organisateurs, la session vise à doter les participants de connaissances sur la confection de tissus traditionnels afin de réduire le chômage et la pauvreté dans la localité. Elle a été organisée par le Centre de développement de l'artisanat textile en partenariat avec la CMDT et va durer 15 jours. C'est sur cette note de Koutiala que se referme cette édition matinale qui vous a été présentée par Miranakilo Maïga, la mise en onde d'Ono Nguiré. Vous avez la possibilité de réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo 37 321. Tout à l'heure, la version Bambara avec Aïssata Diarra. Studio Tamani.